Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par la conclusion. Je vais peut-être accélérer certains points de ce que j'avais préparé, et justement pour être sûr que ce que je vais développer, que ce soit bien clair, ce que j'avais à cœur, c'est de nous encourager aux bonnes œuvres et à ce qui produit la paix et la foi dans nos cœurs. Et pour ça, j'ai choisi deux textes et le thème du temps de Dieu. Alors le temps de Dieu, c'est un vaste sujet, il y a plusieurs axes possibles pour le développer. Notamment Jean Hay, en janvier 2021, avait développé la question de racheter le temps. Et je vous invite vraiment à le réécouter dans le cours de la semaine, parce qu'il y a des points que je sous-entends dans ma prédication d'aujourd'hui, qu'il a déjà développé et qui étaient vraiment très riches. J'aimerais lire avec vous, merci, c'est déjà affiché, ce passage d'Ecclésiaste, on va le lire en entier dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 17. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit en sorte qu'on le craigne. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été, et Dieu fait revenir ce qui a disparu. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté, et à la place de la justice, il y a la méchanceté ou l'iniquité. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. C'est un texte qui nous montre beaucoup de contrariété, voire d'absurdité dans ce que fait l'homme. On voit que tout est limité. Le mal comme le bien. Il y a un temps pour chaque chose et heureusement que c'est limité. Heureusement même que le mal est limité. Mais on voit que le bien aussi n'arrive pas à son plein accomplissement. Il n'arrive pas à son plein épanouissement. Dieu, en revanche, il nous est dit qu'il fait toutes choses belles en son temps et que ce qu'il fait est parfait. Il n'y a rien à y rajouter, rien à enlever. Sans Dieu, l'homme est incapable de discerner, premièrement, ce que Dieu fait. Il reste dans une compréhension charnelle, terrestre, matérielle. L'homme est incapable de voir la portée céleste et éternelle de ce que même lui-même pourrait faire. Il ne voit pas la portée éternelle de ce que Dieu fait, et il ne voit pas non plus la portée que ses œuvres pourraient avoir au-delà de sa propre vie et dans l'éternité. Heureusement, Dieu, dans sa bonté, veut ouvrir le cœur de l'homme à cette dimension éternelle. Il a implanté au plus profond de notre cœur le sens de l'éternité. D'ailleurs, on voit cette opposition, j'ai essayé de souligner en le lisant, mais de ce qui est fait pour, dans la première partie de ce paragraphe, ce qui se passe sous le soleil. Et ensuite, on a une autre chose qui nous est décrite, c'est ce que Dieu fait. Il y a ce qui se passe sous le soleil de notre temps, avec ses contrastes, ses limites, et ce qui est dans le temps de Dieu. Ce qui a une portée éternelle, qui a une nature incorruptible. L'Ecclésiaste perçoit déjà ce que Dieu fait. Il veut emmener l'homme dans cette... que Dieu veut emmener l'homme dans cette dimension, mais il constate que l'homme est incapable de saisir cette œuvre éternelle par lui-même. Et même l'Ecclésiaste, on a l'impression, en tout cas c'est le sentiment que j'ai quand je le lis, mais que lui-même n'a pas encore la pleine révélation. Il sent qu'il y a quelque chose, que Dieu il veut ouvrir quelque chose de plus grand pour l'être humain, mais qu'il n'a pas encore cette pleine révélation qui va être révélée en Jésus-Christ. Que l'on va pouvoir naître, comme Pierre nous le dit au chapitre 1, verset 23, on va pouvoir être régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus nous dira, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et il va aussi nous apporter cette parabole d'un homme, cet homme qui avait des moissons abondantes, au-delà même de ce qu'il avait prévu. Et comment dire, il va se dire, bon ben, j'ai engrangé beaucoup de récoltes, j'ai assez pour toute ma vie, je vais construire des plus grands greniers, et comme ça, je pourrai me reposer. Et que dit Jésus? Il lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. On voit que cet homme voulait décider lui-même de son temps. Il voulait fixer son propre timing. Il ne recherchait pas le temps de Dieu, mais il voulait fixer quel était le temps de la semence, quel était le temps de la récolte, quel était le temps du repos, quel était le temps pour amasser pour lui-même, alors que ce n'était pas le temps que Dieu avait fixé. Dieu avait dit, non, tu n'as pas fini de travailler. Je t'ai donné d'abondantes récoltes, c'est pas pour que tu amasses uniquement pour toi. Il pouvait garder avec lui en abondance, mais il avait aussi, comme il est dit, que Dieu donne de la semence au semeur, il avait encore de quoi ressemer et tout son superflu, il pouvait le donner. Il pouvait le donner et ça aurait porté des richesses auprès de Dieu dans l'éternité. Ce dicton qui dit point de folie dans le cœur de celui qui donne ce qu'il ne peut garder. C'est-à-dire, si de toute façon c'est du vent que ça, tu ne peux pas le garder, donne-le. Au moins, ça profitera à quelqu'un. Nous sommes gestionnaires pour un temps des biens et des dons, de la vie même que Dieu nous prête. Et l'Ecclésiaste nous met en garde. Il nous dit « Dieu jugera le juste et l'injuste. Et pour chaque chose, pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Un temps pour le jugement de chaque homme, juste ou injuste, et de chaque chose, chaque acte. » Alors le jugement, là dont je parle, je ne parle pas du salut. Juste pour que ce soit clair, je parle des œuvres. Voilà. Je ne parle pas du salut et je ne prêche pas le salut par les œuvres, juste pour que ce fondement soit bien clair. Je parle ici et tout au long de ma prédication des œuvres. Paul nous dit, et il invite à chacun à construire avec ses matériaux, ces matériaux qui ont une valeur noble. Et il nous dit que l'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître. L'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun, voir si elle subsiste ou non. Et c'est vrai que nos vies sont marquées par ce qu'on appelle le temps, mais le temps chronos. Il y a plusieurs significations du temps, en grec notamment, entre le timing et le moment. Quand c'est le temps favorable, le moment marqué par Dieu. Et notre vie, par nature, est limitée, notre vie terrestre. Elle est soumise à ce chronos. D'ailleurs, Dieu a mis en place ces deux grands luminaires, le soleil et la lune, pour marquer les jours, les mois et les années. Et notre temps est marqué comme ça. Mais pendant ce temps qui nous est imparti, nous avons cette porte ouverte sur ce temps. Ce temps de Dieu, le kairos en grec, ce temps de la faveur de Dieu où on peut semer, nous-mêmes ayant été régénérés par une semence incorruptible, on a le pouvoir de semer des choses qui subsisteront au-delà du jugement, au-delà du feu, qui subsisteront dans l'éternité, qui subsisteront dans ces greniers célestes. Je crois que j'ai un peu perdu le fil derrière. Non, c'est bon. J'aimerais prendre un passage avec vous dans le Nouveau Testament, Matthieu 16, versets 21 à 4. Pour resituer le contexte, juste avant, Jésus venait avec quelques pains et quelques poissons de nourrir des milliers de personnes qui étaient là réunies. Et après, il prend la barque, il traverse, et là, quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit, donc Jésus leur répond, « Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage, car le ciel est rouge, sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. » Je lui ai dit, c'est quand même extraordinaire. Alors peut-être que ces pharisiens et ces sadducéens n'étaient pas avec lui au moment où il a multiplié les pains et les poissons. Peut-être sans doute aussi que ça avait fait du bruit quand même. Parce que c'était assez hors du commun. Et ils osent venir lui demander un signe qui vient du ciel pour être sûr qu'il est bien le Messie. Je dis, c'est incroyable. Les signes, ils en ont au quotidien, s'ils veulent bien ouvrir les yeux. Mais là, Jésus, il leur dit, vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. Quand Jésus parle des aspects du ciel, il parle de ce qui est, en grec, ça a la signification de l'apparence. Par contre, quand il utilise le mot temps, là, il s'agit du kairos. Vous êtes capables de voir, vous êtes préoccupés par les choses de votre temps, vos moissons, tout ça, alors là, ça vous intéresse, vous savez discerner les temps, vous savez discerner les aspects du ciel. Et pour ce qui concerne le royaume de mon Père, où est passée votre intelligence? Où est passé votre cœur? À quel temps, à quelle préoccupation est-ce que vous vous adonnez? Et vous êtes incapable de voir le signe qui est devant vous parce que vous ne savez pas discerner le kairos, le temps de mon Père. Et ça m'a particulièrement parlé personnellement de voir ce lien entre la capacité à discerner le temps de Dieu et la capacité à voir les miracles au quotidien qui sont là sous nos yeux, à voir ce que Dieu fait dans des choses simples, dans sa parole et dans des miracles à proprement parler, comme on a l'habitude de l'entendre. D'ailleurs, Jésus donne ce signe de Jonas. Et Jonas, quand il est allé à Ninive, donc comme Jésus allait mourir et ressusciter le troisième jour, Jonas est passé, on le sait, par le ventre du poisson, mais on ne voit pas de miracle qui soit raconté pour que les Ninivites changent de comportement. Jonas a apporté, finalement, tant bien que mal, la parole que Dieu lui avait donnée pour cette ville, et ils se sont repentis. On ne voit pas qu'il lui soit demandé « Donne-nous un signe ». Par contre, on voit que Jésus reprend ses paroles aussi que le peuple hébreu faisait ses reproches, qui demandait à Moïse un signe dans le désert, comme quoi il était bien envoyé, etc. Il y avait ces murmures. Et attention à la disposition de notre cœur. Voilà. Jésus nous dit que de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est une priorité de s'en préoccuper. Il ne nous dit pas d'abandonner totalement le reste. D'ailleurs, il est bien dit dans l'Ecclésiaste que Dieu aussi nous donne du bonheur dans ces choses-là. Il ne nous dit pas d'être complètement blême et hermétique à ce qui nous entoure. Il nous donne de profiter de cette vie sur terre et simplement, il nous dit, occupez-vous en premier de mon royaume. Et vous pourrez d'autant plus vous occuper de vos affaires. En musique, on voit qu'il y a des temps. Hein. Pour les musiciens, vous savez qu'il y a des temps. Et pour ceux qui ne sont pas musiciens, quand vous entendez plusieurs musiciens qui ne jouent pas dans le même temps, vous savez qu'il y a un problème. Vous ne connaissez peut-être pas toute la technique, mais là, vous savez que c'est dissonant. Et si vous avez envie de sortir de la pièce, ça confirme bien qu'ils ne sont pas dans le temps. Et c'est intéressant, dans les temps, on a beaucoup de codes. Il y a un temps pour tout. Il y a des crescendo, des décrescendo, il y a des pauses même. Des fois, il y a des retours en arrière, des répétitions. Des fois, dans nos vies, on a l'impression qu'il y a des choses qui se répètent d'ailleurs. On dit que l'art de la pédagogie, c'est de répéter les choses. Des fois, on a l'impression que Dieu nous fait repasser par un chemin jusqu'à ce qu'on ait bien compris la leçon qu'il voulait nous enseigner, jusqu'à ce que notre cœur vienne à maturité dans ce domaine. Et je dirais, c'est important aussi, même pour nos propres vies, de discerner le temps de Dieu. Il y a un temps aussi pour toute chose. Il y a des temps qui sont plus speed. Il y en a d'autres qui sont plus posés. Et des fois, d'accepter aussi ces temps de pause ou de répétition. Et de ne pas avoir peur non plus des temps qui vont être plus intenses. Le temps, chronos, est soumis au temps de Dieu. Et j'ai la liberté de composer sur cette portée si je respecte le temps qui m'est donné. Il y a le chef d'orchestre qui va venir fixer le tempo, qui va venir fixer la mesure, qui va donner la structure. Je peux avoir des très belles performances individuelles, mais si elles ne sont pas accordées sur un temps, sur une note, sur une clé donnée, etc., ça va être inaudible. Quand on va tous les mettre ensemble, ce sera inaudible. Et pour ma vie, c'est pareil. Je peux être capable de faire des choses merveilleuses, mais si je ne le cale pas, voilà, sur le marbre de Dieu, sur son tant à lui, ce sera certainement dissonant. Il pourra y avoir beaucoup de bonne volonté, mais je risque de passer à côté de l'essentiel ou de m'épuiser même. Le fait de s'accorder sur son temps à lui me donne au contraire beaucoup plus de liberté pour pouvoir fixer voilà, les choses, les organiser dans son timing. C'est comme la structure d'une maison. Évidemment, on pose les fondations en premier. Si je veux poser d'abord les murs ou la charpente, bien sûr que ça ne tiendra pas. Il faut des fondations. Voilà, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, ma plus petite fille, le matin, je lui ai dit d'aller s'habiller pour aller à l'école. Je lui ai dit, tu mets bien ta culotte, tes chaussettes, ton pantalon, ton t-shirt, ton pull, etc. On avait tout sorti. Et là, elle revient 10 minutes plus tard, toute fière. Elle était prête. Bon, en mode Superman avec la culotte par-dessus le pantalon. C'était assez amusant de la voir. Elle avait tout mis. Elle avait tout mis, mais pas forcément dans l'ordre. Des fois, je me dis, Dieu, il doit sourire. On fait des fois des choses de façon un petit peu décousue. Mais il a beaucoup de patience. Il a beaucoup de patience. Et il nous invite vraiment à recalibrer notre temps, à ordonner notre vie sur la sienne, pour que la mélodie qui découle de ma vie soit harmonieuse, pour qu'elle entre dans sa mesure. Je crois vraiment que chercher ce kairos de Dieu pour ma vie est source de paix, vraiment. Avec Manon, par exemple, on a un projet depuis de nombreux mois. Et comment dire, un matin, même une nuit, je ne dormais pas. Je me suis levé, je me suis dit, bon, bah, tu vas prendre un temps pour lire. Et là, j'étais dans le canapé et j'arrêtais pas de penser à des échéances au travail. Et à un moment donné, je tourne ma tête et comme ça, bêtement, j'avais les yeux fixés sur la pendule. Je me disais, mais c'est pas vrai, je me suis levé tôt, je veux prendre un temps pour prier, pour lire la Bible. Et mon cerveau n'arrête pas, ne cesse que de penser au temps. Et là, je sens Dieu qui me dit, non, c'est tes préoccupations, mais moi, je veux te parler de mon temps. Regarde cette pendule, ça, c'est la tienne. Moi, je veux te parler de mon temps. Et là, dans sa parole, Dieu m'a parlé, notamment pour ma vie. Et à la fin de ce temps, par rapport à ce projet qu'on a avec Manon, je sens Dieu qui me dit, pour le mois de juin. Ok, bon. Mais je le garde pour moi. Et puis, je ne sais plus si je vais me recoucher ou pas plus tard. Et ensuite, je bois un café avec Manon au petit déjeuner. J'avais un petit peu oublié ça. Et Manon qui me reparle de ce projet, elle me dit, mais tu sais, j'y ai repensé et je me dis, ça serait pas avant le mois de juin. Et puis, j'étais un petit peu endormi avec mon café. Et là, je dis, quoi? T'as dit quoi? Je dis, mais c'est dingue. Il y a 2 heures, je sentais Dieu qui me disait pour le cœur, ça sera pour plus tard, pour le mois de juin. Et là, c'est vrai que tu as toujours envie, tu es toujours attiré par ce projet que tu as, parce que oui, tu... Mais tu sens que Dieu te dit, attends, c'est pour plus tard. Là, je parle d'un temps pour ma vie, attention. Mais je crois que c'est bon quand nos vies sont alignées sur le temps de Dieu. Paul nous exhorte et nous explique que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est-à-dire les choses de ce chronos, hein, mais que c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Et ces 3 critères sont intéressants, je trouve, pour nous entraîner à discerner ce qui relève ou non du royaume de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que Ça produit la justice ou l'injustice? Est-ce que ça produit la paix ou bien l'angoisse, le trouble, la confusion? Très rapidement, l'exemple d'Abraham, qui nous a été donné aussi pour notre instruction, on voit que la Bible ne cache pas les moments de chute, de faute. Il nous montre aussi comment retourner à l'Éternel. Ce passage où Sarai va lui dire d'aller avec sa servante, parce qu'il y avait cette promesse qu'il serait père d'une multitude, mais le temps passait et ça devenait de plus en plus improbable humainement. Et qu'est-ce que ça a produit d'avoir cet enfant issu de la servante de Sarai? Est-ce que c'était juste de coucher avec la servante de sa femme? Est-ce que ça a produit la paix ou bien l'inimitié et même le mépris de la servante envers Sarai? Et même, on voit que Sarai va demander justice. Elle va dire que l'Éternel soit juge entre nous. On voit qu'il y a une injustice au final. Et pourtant, ça venait, il semblait d'elle. Est-ce que ça a produit la joie ou bien la tristesse, même la détresse de cette servante qui se retrouve avec son enfant en plein désert? Bien sûr, après, Dieu va réexpliquer les choses à Abraham, à Sarah, et son plan va quand même se dérouler. Et heureusement, dans sa grâce, son plan se déroule au-delà de nos plans à nous. Et c'est en ça que je trouve que ça produit énormément de paix, quand notre temps vraiment est calé sur le sien. Il y a beaucoup d'autres exemples, celui de Jérémie. C'est pas un livre simple à lire, le prophète Jérémie, mais quand on voit, je dis, la foi qu'il avait, Jérémie, et le discernement, il savait que le temps, là, pour Israël, était le temps du jugement. Déjà, Moïse l'avait dit, si vous vous détournez de ces paroles, voilà ce qui arrivera. Et Jérémie la savait discerner et entendre la voix de Dieu. Et c'était plus le temps de rester, comme l'annonçaient les faux prophètes, dans le pays d'Israël. Mais il savait qu'il y avait un temps pour l'exil, mais qu'il y aurait aussi, il avait cette foi en Dieu, parce qu'il y avait la promesse qu'il reviendrait et qu'il se rétablirait à nouveau dans ce pays. Je vais prendre un dernier passage dans Romains 11, verset 33 à 12, verset 2. Paul qui nous dit « Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. » On voit comme l'Ecclésiaste qui nous dit que personne ne peut découvrir voilà, ce que fait Dieu. « Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu qui ouvre nos cœurs sur l'éternité, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui me parle dans ce passage, c'est de voir aussi comment Paul il associe le fait de voilà, discerner ce qui vient de Dieu, ce qui est par lui, qui subsiste par lui, qui est pour lui, et le fait de lui offrir nos corps en retour. C'est pas juste, voilà, dans notre pensée, c'est dans notre pensée, dans notre cœur et dans nos actes concrets. Il dit, il nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Il nous rappelle combien la pensée et les plans de Dieu sont tellement plus hauts que les nôtres. Ils sont même, on ne peut pas, par notre seule pensée, sonder même tous ces plans. Mais, dans son immense bonté, Il nous ouvre cette porte sur l'éternité par Jésus-Christ, bien sûr. Par sa parole, par son esprit, il nous guide pour pouvoir déjà accomplir et réaliser ces œuvres qui auront une portée pour l'éternité. Je rappelle juste en deux mots ce qu'avait partagé Jean et sur le fait de racheter le temps, c'est-à-dire le fait de pratiquer les bonnes œuvres, qui nous invitait, qui nous exhortait vraiment à pratiquer ces œuvres, voilà, qui, je le rappelle bien, pas les bonnes œuvres dans l'idée d'acquérir le salut, mais ces bonnes œuvres qui découlent du don de la grâce de Dieu, qui nous rend capables, qui nous rend vraiment capables de pouvoir faire des bonnes œuvres selon son cœur. Reconnaître ce que Dieu fait nous ouvre les yeux sur son temps, sur la portée éternelle de qui il est et de ce qu'il fait. Et sur cette grâce aussi que nos œuvres peuvent avoir une portée éternelle. Et je veux vraiment encourager chacun. Je n'ai pas voulu faire de liste pour dire « ça, c'est une bonne œuvre, et ça aura une portée éternelle. Ça, non, pas bien. » Je crois que déjà, bon, on a la parole, on a l'Esprit de Dieu, chacun. Et vraiment qu'on prenne le temps de se placer. Quand on a des choses qui nous tiraillent en nous de les mettre à la lumière de la parole. Si besoin d'un frère ou d'une sœur, de prendre le temps aussi pour exposer une situation, on pourrait dire, dans telle situation, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mes propres désirs ou si c'est vraiment la volonté de Dieu. De pas avoir peur aussi d'attendre ce temps. J'avais vraiment cette pensée forte et encore là ce matin que voilà, plusieurs d'entre nous et certainement voilà, plusieurs ici ont reçu une promesse mais ne la voient pas encore s'accomplir. Et de ne pas avoir peur d'attendre le temps vraiment de Dieu, de son accomplissement, quel que soit le domaine, que, voilà, que ce soit pour une personne dans ta vie, que ce soit une... Je ne veux pas limiter dans les exemples que je peux donner. Chacun le sait en quoi Dieu lui parle, mais de ne pas avoir peur d'attendre ce temps. Vraiment comme Abraham, la promesse, elle était longue à venir. Les circonstances n'étaient plus du tout là. Les aspects dont Jésus y parle, les apparences pour Abraham et Sarah, elles n'étaient plus du tout là. Mais le temps marqué par Dieu était bien là et la promesse s'est réalisée. Voilà, donc je veux juste vous laisser cette exhortation, afin que ça produise la paix dans nos cœurs quand on ne voit pas la promesse se réaliser de suite et que ça nous encourage, que ça nous donne la foi pour pratiquer ces bonnes œuvres qui ont une portée céleste. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce de se dire que ce qu'on fait aujourd'hui avec des choses périssables peuvent avoir une portée impérissable. Que Dieu vous bénisse.